Émir, on va encore garder longtemps le chien de ta copine. Là, vraiment, on ne sent même pas la gîte du local.
Ultra informé, ultra connecté, je sais ce qu'il se passe ici, je sais ce qu'il se passe ailleurs. L'information est la carte postale la plus rapide du monde aujourd'hui. Enfin, je vous dis je sais, mais je pense savoir. En fait, j'absorbe chaque jour et puis j'oublie un peu, quand ce n'est plus le dernier titre à la une, quand une autre masse d'informations arrive et toque à ma porte. Chers auditeuristes, dans la nuit du 8 au 9 septembre, nous le savons tous, l'ouest du Maroc a été frappé par un séisme. Aujourd'hui à notre micro, Fatiha Berioua de l'association Solidarity Maroc nous parlera de la situation actuelle sur place et des actions mises en place par son association pour une action durable sur le terrain. Chers auditeurs, et Lucie, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est le jour de notre reportage Pensée Locale qui nous emmène à Châteaubriant avec le Désorientation Féministe Festival. Ça sera dans quelques instants. Et pour terminer cette émission, c'est la chronique 100% sport de Kevin. Lucie, tu commences par un point sur les actualités locales.
Avec plaisir. Chers auditeurs, aujourd'hui, je commence par la fin des travaux énergétiques de l'hôtel du département à Laval. Le chantier est enfin achevé et va permettre un gain énergétique de 47%. Pas mal. Et l'objectif d'ici à 2040, c'est d'être le premier département bas carbone. On ne s'éloigne pas trop puisque demain, jeudi 9 novembre, des agriculteurs vont se mobiliser à 21h30 devant la préfecture de Laval pour faire entendre plusieurs revendications. Les secrétaires généraux des jeunes agriculteurs et de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles demandent notamment à, je cite, « l'État de suspendre la hausse de plusieurs redevances, de pousser au niveau européen leur position sur l'usage durable des pesticides et de renouveler la dérogation jachère ». Fin de citation. Pour eux, il ne s'agit pas de déroger aux différents défis, que ce soit la transition, la transmission des exploitations, etc. Seulement, ils estiment que la réglementation est asphyxiante et les leviers financiers sont insuffisants pour les aider à relever ces fameux défis.
Est-ce que tu as quelques petits rendez-vous culture maintenant ?
Avec plaisir, mon attention a tout d'abord été retenue par ceci. Julien Clément, jongleur, et Pierre Paulet, batteur, vous proposent un duo insolite ce vendredi. Ce sera un spectacle oscillant entre cirque, danse et musique, vendredi 10 novembre à 20h30 au Théâtre des Trois Chênes à Loiron-Ruillé. Ensuite, pour ceux qui ont repéré les affiches, sachez qu'il reste des places pour l'événement À Table, qui se tiendra samedi 18 novembre à 19h à l'espace culturel Saint-Clément à Cran. Vous pourrez profiter de deux spectacles, une soupe et un grand repas partagé. L'idée des organisateurs est à la fois de vous proposer la découverte du théâtre d'objets et d'autres formes, de soutenir la création artistique par l'accompagnement logistique et financier, et puis surtout, dans tout ça, de vous proposer un moment de convivialité. Pour finir, ceux qui ont envie à nouveau d'un moment festif et convivial, sachez que à Maisoncelles du Maine, vous pourrez profiter d'un bar éphémère ce dimanche 12 novembre. En fait, les élus ont découvert par hasard qu'ils pouvaient obtenir gratuitement une licence 4, la fameuse licence des restaurants. Je vous la fais courte, mais une loi de 2019 relative à l'engagement dans la vie locale permettait aux communes de moins de 3500 habitants n'ayant plus de licence 4 d'en obtenir une gratuitement avant décembre 2021, sachant que normalement elle vaut plusieurs milliers d'euros et doit obligatoirement être achetée à quelqu'un qui la possède déjà. C'est donc plutôt pratique d'avoir cette dérogation. L'idée des élus est donc de favoriser un peu la vie locale et de céder gratuitement la licence le jour où quelqu'un la voudra dans la commune. Bref, en tout cas, pour garder cette licence, ils doivent ouvrir au moins deux fois par an une buvette. Et donc ce dimanche 12 novembre, de 10h à 14h à la salle des fêtes de Maisoncelles du Maine, ce sera brunch avec une formule à 12€ pour les adultes et des réservations obligatoires au 06 61 79 67 19.
Un peu de sport pour conclure.
D'accord, mais alors très vite Margot, ce samedi 11 novembre 2023 à 19h, on comptera la 14e journée de Ligue 2 avec l'affrontement entre le Stade Lavallois et l'US de Concarneau.
Peut-être que Kevin nous en parlera dans quelques instants. On verra. Donc bonjour Fatiha Berioua, vous avez créé l'association Solidarity Maroc à Laval suite au séisme qui a frappé l'ouest du Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre cette année. Ça a fait donc 3000 morts et plus de 5500 blessés. On compte au moins 50 000 habitations totalement ou partiellement détruites et les deux provinces les plus touchées sont celles d'Al Haouz et de Taroudan. Et votre association intervient aujourd'hui dans la province de Taroudan, justement, particulièrement.
Tout à fait.
Donc vous êtes originaire de la province de Taroudan et vous avez de la famille sur place, notamment votre frère. C'est ce qui a permis peut-être une réaction rapide de votre part ?
Oui, complètement. Donc en fait, je suis originaire de deux villages aux environs de Taroudan, en bas de la montagne. J'ai ma mère qui réside là-bas, enfin nous avons de la famille là-bas. Mon frère était sur place lors du séisme, ce qui a permis d'agir tout de suite, lui à son niveau et puis nous aussi de notre côté, avec un envoi d'une cagnotte en fait qui a été faite, pas la cagnotte en ligne, mais une cagnotte en parallèle en fait, ponctuellement avec de notre entourage, des amis, etc. Mais par la suite, je me suis dit non, faut pérenniser les actions, faut les aider au long terme. Et le 11 septembre, dès lundi en fait, j'ai monté l'association.
Donc il y a eu notamment un appel aux dons. Est-ce que les Mayennais ont répondu présent ? Je crois qu'il s'agissait particulièrement de tentes, sacs de couchage et vêtements à ce moment-là.
Oui, alors on a fait une collecte de dons des associations lavalloises, le comité d'animation Laval-Nord, Laval-Maghreb, le comité des Roses de Cran. On nous a contactés et on nous a aidés. Et voilà, dès l'apparition du premier article dans la presse, une solidarité s'est tout de suite mise en place. Donc on a fait une collecte de dons de matériel, parce qu'on faisait une collecte à domicile. Donc on avait un membre, Kamal, qui collectait à chaque domicile, parce qu'on n'avait pas de local en démarrant. Et ensuite, plus d'une quarantaine de tentes qui ont pu être acheminées jusqu'à là-bas, post-séisme. Des tonnelles qu'on a achetées, des grandes tonnelles de 6 mètres pour avoir des familles en fait qui puissent cuisiner. J'ai une anecdote lors du voyage, du premier voyage, des bébés dans des petites tentes quechua, avec une bouteille de gaz à côté, en train de cuisiner, tout ça, c'était vraiment pas possible. Collecte de vêtements qui a eu un gros succès aussi, qui a été acheminée aussi, et on a eu des dons aussi, cagnotte en ligne, qui a très bien fonctionné, parce qu'en fait les envois des dons sont payants. On fait appel à des transporteurs, mais c'est payant en fait. C'est pas...
Oui, ça se fait pas. Il faut l'inclure. Il y a toute une logistique, bien sûr.
C'est ça.
Et donc, après 2 mois, quelles sont les actions possibles aujourd'hui ?
Donc ça, c'était les actions à court terme, tout de suite en fait. Il fallait mettre en place des choses. C'est vrai que c'est arrivé une période en septembre, il faisait beau, etc. Là, actuellement, je suis infirmière de profession. Alors, on a fait une caravane médicale avec l'association Jeunes d'Atlas qui est basée sur Taroudan. Et c'est vrai qu'il y a besoin en fait en matière de soutien psychologique et les enfants. On sent que le traumatisme est toujours présent. Et l'idée en fait, c'est vraiment de les accompagner là maintenant. Les conditions météorologiques sont très mauvaises. La pluie qu'on a ici, c'est exactement la même en montagne. Les tentes qui ont été mises en place par les autorités, par les associations comme nous, sont à terre. En fait, il a fallu reconsolider les tonnelles avec des bâches plus épais. L'humidité, mettre des palettes au sol avec des tapis, des choses beaucoup plus hermétiques. Et donc c'est vrai que le moral n'est pas forcément très bon pour les populations. Après, je ne parle même pas des anciens, des personnes malades qui demandent aussi une prise en charge assez rapide. Il faut savoir que ce sont des gens qui habitent en montagne. Sur le terrain, on va dire qu'ils habitent à quelques kilomètres de Taroudan, mais pour eux, c'est 2 heures de route, voire 3 heures. Là, on a mené une action le week-end dernier, c'était à 4 heures de Taroudan. Sur le papier, c'est très peu de kilomètres, mais la route est très... c'est de la piste, en fait. La route est très mauvaise.
Oui, bien sûr, il faut s'adapter aux conditions sur place.
Et en fait, l'idée actuellement, c'est vraiment de leur donner un petit peu de soutien, que ce soit en améliorant leurs conditions de vie. On ne va pas leur reconstruire leur maison, ça c'est sûr. On est une petite association, on démarre. Mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner et de les aider. Par exemple, en matière d'éducation, là, il y a le bouche à oreille fait que les associations locales avec qui on travaille nous disent il y a tel village, il y a l'école qui est en mauvais état. Ils n'ont pas de fourniture, etc. Est-ce que c'est possible de nous aider ? Il y a des femmes aussi, parce qu'on est le pays berbère de l'huile d'argan, du henné, tout ça. Là, on a prévu de faire une vente de produits artisanaux. Donc, ça va être des ventes avec... là, on est en train de préparer, par exemple, des paniers dégustation avec de l'huile d'argan, des choses des villageois, en fait. Ce n'est pas nous qui fabriquons. Nous, on fera juste l'emballage. ici, mais c'est pas, c'est vraiment eux, c'est de les rendre acteurs en fait de leur, pour leur quotidien déjà, et puis pour le moral aussi. Ça n'a pas de prix, c'est que bénéfique pour eux et pour nous, parce que c'est vrai que nous, du coup, on se dit, mais ils sont motivés. Là, vous voyez, en 3 jours, elles ont déjà fini la fabrication. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Et on a besoin justement de bénévoles pour mener à bien ces actions ici en Mayenne. On a besoin de bénévoles, que ce soit pour leur créativité, les idées, etc. Là, on a des projets par rapport à cette fin d'année qui est propice à la solidarité, au partage, au marché de Noël, notamment celui de Cran pour le Sud Mayenne. Donc sur celui de Laval, on essaie pour l'instant d'avoir des retours. Vous voyez, tout ça, ça nous permet d'exposer, mais en même temps d'exposer aussi leur travail à eux là-bas. C'est une population qui est très gentille. Tous les Français le disent, hein, c'est vrai, pour... Quand ils font des voyages dans le sud de Marrakech, c'est une population très humble, très généreuse, toujours dans le partage avec très peu.
Justement, l'État marocain a indiqué qu'il apporterait un soutien financier aux familles touchées. Est-ce que ce soutien sera suffisant pour reconstruire quelque chose ?
Alors oui, tout à fait. Là, on est sur une deuxième campagne. C'est le deuxième mois, en fait. Du coup, il y a une aide mensuelle qui est faite par les autorités marocaines. Donc là, on est sur la deuxième session. C'est une aide qui va leur permettre déjà de pouvoir acheter les denrées alimentaires, etc. Parce qu'ils font leurs courses une fois par mois, tellement la route est longue jusqu'au prochain souk, en fait, le marché le plus proche. Ça leur permet d'espérer et surtout de construire en fait d'améliorer leurs habitations. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont touché leur premier mois, leur deuxième mois. Ça leur permet d'avoir, de faire un petit mur pour leur bétail, d'acheter de la nourriture pour leur bétail, d'acheter du bétail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu leur bétail de tuer, en fait, dans le séisme. Donc, cette aide, ça leur permet, disons, de pallier aux dégâts du séisme, ponctuellement, chacun à leur niveau. Mais c'est vrai que ça permet de les aider d'améliorer leur vie, en fait.
Donc justement, vous parliez tout à l'heure d'actions sur le long terme, notamment des pathologies post-traumatiques.
Oui.
Donc vous constatez effectivement, c'est pas anodin psychologiquement, mais aussi physiquement. Vous parlez là de personnes qui ont des atteintes physiques très fortes quand même.
Oui, c'est ça. C'est vraiment de cibler en fait les besoins post-traumatiques, parce qu'on sait que ça fait beaucoup de dégâts. Là, une anecdote, par exemple, j'ai une dame là, lors de la première caravane médicale. Elle ne dort plus la nuit, en fait. On ne dort plus du tout la nuit. Donc, on a eu des témoignages lors de la dernière réunion à Laval de présentation qu'on a faite la semaine dernière. Une Lavalloise, donc, qui a témoigné en disant, moi, je ne dors plus, en fait. Je vais consulter, je ne dors plus. Et c'est vrai que je me dis, si nous... on imagine les populations sur place depuis presque 2 mois, en fait. Toutes les personnes qui étaient là le jour du séisme me disent, mais oui, on en fait encore des cauchemars, les nuits sont compliquées, en fait. Le moindre bruit, le moindre objet qui tombe par terre, on sursaute. Et ça fait beaucoup de dégâts. Et l'idée, vraiment, c'est de pérenniser les actions, de les accompagner, de les aider, de les soutenir. Vous voyez, on a fait des actions le week-end dernier, ne serait-ce que leur montrer que, il y a une continuité après. Et vous voyez, des animations de clowns éducatifs. Enfin, ils ont adoré, en fait. C'était beau à voir, quoi, sur leur visage. Et même les parents, ils sont là, ils sont publics. ils ont adoré, en fait. C'est plutôt positif et je suis confiante pour la suite.
Pour la suite. Et vous parliez justement à l'instant de la caravane médicale. Donc en fait, vous avez aussi apporté directement du matériel médical sur place.
Oui, on a fait grâce aux pharmacies, aux infirmières libérales du 53, du 49 aussi, qui nous ont apporté beaucoup d'aide, ne serait-ce que orthopédique. On a envoyé des fauteuils roulants, des béquilles. Vous savez, on n'a pas le droit d'envoyer des médicaments. Donc, on a fait vraiment au plus important les antalgiques. Mais c'est vrai que sur place, on s'est rendu compte que les associations, l'association des pharmaciens du Maroc avait fait beaucoup de dons. Et l'avantage de collaborer avec les associations locales, on est venu avec notre valise, notre tensiomètre, tout ça, le matériel qu'on avait apporté. Et ça a été plus facile, en fait, pour les déplacements en montagne, la mise en place. On a travaillé avec des médecins locaux et de tout le royaume, de Rabat, de Tanger, etc. Et ça a été vraiment bénéfique. Et puis nous, on a pu voir, on a fait plus de 500 personnes, une consultation sur une journée. C'était une caravane de 3 jours. Et c'est vrai que ça a flué. On a des gens qui n'avaient jamais vu de médecin. Une dame qui avait 5 grammes de glycémie, enfin, j'ai halluciné, je dis non, c'est pas possible, c'est la machine qui ne fonctionne pas. Pas du tout, en fait, c'est vraiment ils étaient heureux de voir qu'enfin, avec la catastrophe qu'il y a eu au-delà des frontières, il y a eu une solidarité, il y a eu vraiment du...
Une vraie considération.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'ils nous disent, hein, moi, Chloé, Stéphanie, enfin toutes les personnes qui étaient là, les infirmières, on a eu un retour positif de nos actions, quoi. C'était super chouette. Ouais.
Les membres de votre association sont principalement du personnel médical, pas forcément ?
Pas du tout, non, pas du tout. Et c'est ce que nous disaient les associations locales, en fait, il ne faut pas forcément être soignant, en fait. Eux, ils ont besoin d'installer, il y a besoin de bras pour installer, distribuer des denrées alimentaires, parce qu'on n'a pas fait que du soin, en fait, il y a eu de la distribution de denrées, de l'animation. Lors des réunions, il y a de tout, hein. C'est vraiment pas forcément infirmière. Bon, le hasard fait que je travaille dans le domaine, mais c'est vrai que c'est vraiment, voilà.
Diversifié,
voilà, c'est ça, tout à fait.
À son échelle, peut intervenir et puis proposer des choses, parce que justement, oui. vous recherchez encore des bénévoles, en tout cas, vous êtes preneur, pour des nouvelles idées, pour apporter du soutien sur ce qui est déjà mis en place. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour pouvoir vous soutenir ?
Alors, vous pouvez me contacter, donc vous allez avoir mes coordonnées donc sur la page Instagram, donc on est sur Instagram, sur Facebook. On a un site internet là qui existe déjà, donc on va le partager sur la page Instagram aussi. Et voilà, vous pouvez me contacter à mon numéro sans problème. Je suis tout à fait disponible, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'adhésion payante. On fait une adhésion libre pour pouvoir justement présenter, expliquer. On se donne quelques temps pour voilà, présenter les choses. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de voilà, c'est vraiment...
Il n'y a pas de critères.
Il n'y a pas de critères, exactement. Le critère, la valeur la plus importante, voilà, c'est la solidarité, l'humanité. Et à partir de ce moment-là, je pense que... Voilà, on peut pas demander plus.
Merci Fatia.
Merci, merci à vous Margot.
De nous avoir présenté donc, l'association eh bien, Solidarity Maroc, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
C'est ça, merci.
Avant de parler féminisme du côté de Chateaubriand, dans la suite de cette émission, j'ai découvert ce morceau, il m'a plu, il arrive donc dans l'agité, c'est Point Sensible de Malik Djoudi.
Montre-moi ton point sensible, je te dirai qui tu es.
Sentir, sentir tout, toi et moi.
L'association Solidarity Maroc sera présente sur le marché de Noël de Cran le 26 novembre. Et maintenant, le DOF, c'est-à-dire le Désorientation Féministe Festival, se tiendra du 2 au 26 novembre à Châteaubriant et ses communes alentours. L'objectif est d'échanger, de se retrouver et de sensibiliser le public sur des problématiques féministes en milieu rural. C'est une initiative qui est née il y a un an au sein de la chorale Las Marisposas. Au programme du festival, arpentage, spectacle pour enfants, atelier d'autodéfense féminine et formation pour mieux accueillir les personnes LGBTQIA+, ou encore même dessiner des bas. Chaque activité est à prix libre afin de rendre le festival le plus accessible. C'est notre reportage Pensée locale de la semaine. Il nous est proposé par Yelena de Prune, qui a rencontré Pascaline et Christine, qui ont participé à la création du festival.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Nous avons sillonné pendant un an nos différentes utopies féministes. Nous nous sommes frottés à des avis contradictoires et sur le chemin, ce mois de novembre s'est dessiné. C'est ainsi que se présente le festival féministe des orientations. Une première édition qui aura lieu du 2 au 26 novembre à Châteaubriant et ses alentours, au nord du département de la Loire-Atlantique. Ce projet est né des envies des chanteuses de la chorale Las Marisposas de créer des temps de rencontres, d'échanges et de convivialité autour de questionnements féministes, et ce, en milieu rural. Un point important pour Pascaline et Christine qui ont participé à la création du projet.
Donc l'idée, c'était de visibiliser des femmes et leur travail et aussi de permettre à différentes personnes de se rencontrer. Parce que le fait d'être dans un milieu rural aussi, ça fait que parfois on a du mal à se retrouver, à se rencontrer. Donc nous, on a la chorale, mais on est au courant qu'il y a différentes personnes qui font différentes choses à différents moments. Voilà, on avait envie de créer un moment, un temps où on pouvait se rencontrer plus facilement et discuter entre femmes et aussi avec des hommes et avec les enfants. Parce que aussi l'idée, c'était que diverses personnes puissent trouver leur place.
Et la volonté aussi de créer quelque chose d'autre ensemble. Et au mois de novembre, au départ, parce que le mois de novembre, c'est le mois de grisaille, quoi, là, l'hiver arrive. En plus, le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc tout ça trouvait une cohérence. Au départ, on était parti sur un week-end. Mais quand on a vu tout ce qu'on voulait faire et tout ce qu'on voulait mettre déjà dans cette première édition, on s'est dit, bah, pourquoi pas, allez, soyons folles, travaillons sur le mois, quoi. Donc voilà.
Et juste, on a écrit dans les environs et Châteaubriant, parce que, en fait, quand on habite là dans le pays de la Mée, c'est Châteaubriant qui est un peu la ville centre. Et nous, justement, notre volonté, c'était de dire dans les environs et Châteaubriant. Donc, Châteaubriant, c'est plus facilement repérable pour les gens. Donc, on a mis ce nom-là. Mais voilà, on fait à Saint-Julien-de-Vouvante, à Issé, à Saint-Aubin-des-Châteaux, à Rouget. On avait cette volonté aussi que ce soit un peu partout dans le pays de la Mée, quoi. Dans le milieu rural, des fois, on cumule aussi les difficultés, dans le sens où si on n'a pas de moyens de transport, eh bien, là, ça devient plus compliqué. Donc, du coup, le fait, nous aussi, de nous déplacer, ça permettait peut-être à certaines personnes pour qui voilà, les déplacements étaient plus complexes de venir ou de se sentir concernées. Nous, on est de là, en fait, donc on voulait construire quelque chose qui est à notre image ou à l'image de ce qu'on vit. Les gens qui vivent dans les grandes villes ou dans les villes, c'est pas la même façon de vivre malgré tout, en fait. Et il y a quand même aussi des rapports de domination entre le milieu rural et le milieu urbain. Et voilà. Et nous, on avait envie de faire vivre et de vivre quelque chose sur notre territoire qui fait partie de nous, qui est intégrante de nous.
Et faire venir les gens des grandes villes, dans les petites villes et dans les villages. Voilà. Un week-end à la campagne.
Au cours de ce mois, plusieurs activités à prix libre sont proposées, comme des spectacles pour les enfants, mais aussi des formations pour prendre en compte les vécus et les besoins des personnes LGBTI+, ou encore des initiations à l'autodéfense féminine, une programmation qui reflète la diversité du collectif, mais aussi leur réflexion sur le féminisme, un choix assumé par Pascaline et Christine.
Il y aura une séance d'arpentage autour d'un livre sur la maternité, injonction sociale, la journée de formation LGBT, et puis autodéfense féminine, enfin bon, plein de thèmes qui nous sont chers à l'une et à l'autre, et qui sont mis en commun. Et après, par exemple, comme le temps sur la ménopause, c'est venu tout simplement parce que le département de Loire-Atlantique propose début novembre une semaine sur le tabou des règles. Et donc, ils ont envoyé à moult associations un mail en disant, bah voilà, on organise ça, si vous avez des projets ou des idées, faites-nous en part. Et nous, on était en plein travail de ce festival, quoi. On s'est dit, bah oui, super. Donc, il y a déjà Bérénice Pasquier qui fait partie du collectif et qui est potière et qui propose un atelier de modelage de vulve en présence d'une sage-femme qui va parler de l'anatomie du corps féminin. Et puis là-dessus, on s'est dit, bah oui, il y a le tabou, il y a les règles, effectivement. Mais à un moment donné, il n'y a aussi plus les règles. Et la ménopause, un sujet dont on parle peu. C'est des choses aussi qui se sont construites aussi au fait des propositions et des possibilités sur le territoire, quoi.
Pour les curieuses et curieux, vous pouvez retrouver la programmation du festival sur leur page Facebook et Instagram D-Orientation Féministe Festival.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Yelena Parento pour Prune.
Et Kevin revient aujourd'hui avec sa chronique 100% sport. Bonjour Kevin.
Eh bien bonjour Margot et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous aimez le sport? Alors restez avec nous pour les passionnés de sport et particulièrement de football aujourd'hui. Alors Margot, est-ce que tu as suivi un peu les actualités sportives de ces dernières semaines?
Alors j'ai entendu parler de l'équipe de France de football masculin qui a été qualifiée pour l'Euro 2024.
Alors oui, en effet, et on y reviendra plus tard, j'ai plein d'infos croustillantes sur l'équipe de France. Mais en attendant, à la 13e journée de Ligue 2, le Stade Lavallois est encore et toujours leader depuis un mois avec 29 points. Et nos amis du SCO d'Angers sont en seconde position avec 26 points. Alors pour les matchs de ce week-end, Laval jouera contre Concarneau, donc le Stade Lavallois est favori avec 96% de chances de victoire. Angers affrontera Pau. Bordeaux contre Annecy, Auxerre contre Saint-Étienne, Amiens contre Grenoble, Rodez contre Guingamp, Ajaccio contre Troyes, Paris FC contre Bastia, Caen contre Rouen et enfin Valenciennes contre Dunkerque.
Et pour la Ligue 1, quelles sont les dernières nouvelles?
Alors concernant la Ligue 1, pour l'instant à la 11e journée, c'est l'OGC Nice qui est leader du classement avec 25 points, suivi du PSG avec 24 points. Et pour la fiche de ce week-end, Montpellier jouera contre Nice, le PSG contre Reims, Le Havre contre Monaco, Lille contre Toulouse, Nantes contre Metz, Clermont contre Lorient, Rennes contre Lyon et pour finir, Lens contre l'OM.
Super, merci Kevin. D'autres infos sur le foot?
Oui, alors à la 4e journée de la Ligue des Champions cette semaine, les deux équipes françaises ont malheureusement eu du mal. Donc mardi soir, l'AC Milan a battu le PSG 2-1 et hier soir, Eindhoven a battu Lens 1-0. Et enfin ce soir, place à la 4e journée de la Ligue Europa avec l'OM qui affrontera Athènes et Toulouse jouera contre Liverpool. Et toujours en football, l'équipe de France féminine sera à Rennes le vendredi 1er décembre prochain pour la Ligue des Nations. Et il reste encore quelques places et je serai sur place pour encourager les Bleus. Et enfin, comme promis, voici quelques infos croustillantes sur l'équipe de France de football masculin. Alors déjà, les qualifications à l'Euro 2024 continuent avec deux derniers matchs contre Gibraltar le 18 novembre et contre la Grèce le 21 novembre. Et concernant nos adversaires, le tirage au sort des groupes aura lieu le samedi 2 décembre en direct de Berlin. Et les places seront mises en vente à partir du lundi 4 décembre, des places allant de 25 € à 145 €.
Génial, merci pour ces infos croustillantes. Est-ce que tu iras voir un match en Allemagne ?
Alors oui, j'ai prévu d'y aller, donc en espérant un match qui tombe un samedi soir avec un peu de chance. Et en plus, j'ai déjà regardé les hôtels, ils sont 2 fois moins chers en Allemagne qu'en France.
Hashtag Kevin en Allemagne, à suivre sur l'autre radio.
Exactement. Allez, c'est la fin pour moi et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles actus sportives.
Merci Kevin. L'émission est terminée. Demain, on sera ensemble pour le dernier jour de la semaine à 12h15 et 18h15, comme d'habitude, évidemment. Et si on jette un coup d'œil sur la programmation d'aujourd'hui, sur l'autre radio, Lucie, qu'est-ce qui arrive?
À 19h, c'est Le Masque et la Tronçonneuse, la rediffusion d'une émission que vous avez peut-être manquée, qui aborde la question du huis clos.
Et à 21h, on écoute Quand la musique est bof.
L'émission parlera du film Good Morning England, sorti en 2009. C'est une comédie germano-franco-britannique, réalisé par Richard Curtis, un fameux film qui fait du bien aux yeux, aux oreilles et au cœur.
C'est vrai, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le voir et pourquoi pas le découvrir dans un premier temps à 21h sur l'autre radio avec Quand la musique est bof. Merci d'avoir été avec moi, Lucie. On te retrouve dès lundi dans la JT du local. Nous, chers auditeuristes, notre prochain rendez-vous, c'est demain à 12h15. La journée n'est pas terminée. Profitez-en, je vous fais confiance. Faites ce qu'il faut. En tout cas, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.